Trouville a été traversé par la voie romaine. Il paraît que il y a, je sais pas, peut-être 20, 30, 5 ans, il y en a qui ont fait des fouilles et ils ont retrouvé des morceaux de vase. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, et ça va jusqu'à Lillebonne, parce qu'à Lillebonne, il y a un cirque romain.
Bulle et reportage, principe actif.
Traversée par la voie romaine, Fauville-en-Caux est une commune de Seine-Maritime située, comme son nom l'indique, dans le Pays de Caux, à égale distance entre Rouen et Le Havre, au carrefour des routes de Fécamp et Lillebonne. Laissant pousser des enseignes de grande distribution, la commune est restée rurale, hébergeant aujourd'hui un lycée hortitech formant les futurs agriculteurs, et c'est aussi une culture cauchoise qui préserve son héritage chrétien entre monuments et festivités, notamment celle de la Saint-Jean. L'association Pixel est partie à la rencontre de cette commune par plusieurs propositions artistiques. Ici, avec les résidents de l'EHPAD Bouygues-Manoury, notamment Madame Roujol, Madame Solange Renier, Madame Rabiot, Monsieur Annet, Madame Sanson, Madame Cécile Hébert, Madame Elie, ainsi que d'autres personnes rencontrées avant ou après, Jean-Jacques Tiercelin, Dominique Lebas et Françoise Blondel. Ces témoignages ont été regroupés par lieu emblématique et reliés à une carte interactive. Nous vous livrons ici leurs voix et leurs souvenirs. Le pot cassé de l'époque romaine, le marché franc du Moyen-Âge, les rosières de Maupassant, les multiples étapes de construction de l'église et les vestiges de l'ancienne, le corso fleuri de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, c'est ici un voyage à travers les âges raconté par les Fauvillais. Institutrice, fille de mère ou homme à tout faire, un portrait de Fauville-en-Caux par ses habitants, natifs ou non, croisant la grande histoire et les histoires individuelles.
Fauville a toujours été très rural. C'est parler de la foire aux bestiaux, hein, qui a été créée par mon ami Albert Boivineau, hein, docteur vétérinaire. Depuis le Moyen-Âge, il y avait tous les marchés francs, c'est-à-dire que tous les vendredis, les premiers vendredis de chaque mois, il y avait une vente de bestiaux qui avait lieu sur la place avec des endroits réservés. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens, des acheteurs extérieurs et puis des éleveurs de la région au départ et puis après des éleveurs plutôt de métier.
C'est un des tout derniers, je pense qu'il a toujours lieu le premier vendredi du mois. Et ça, c'est un souvenir d'enfance aussi. Toutes les bêtes sur la place Gaston Sanson avec les maquignons de l'époque en blouse noire, le bâton à la main, et puis les ventes de bétail dans le Pays de Caux. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de contrat, c'était du topéla. Mais quand vous aviez topéla, normalement, il n'y avait pas de problème.
Ce marché franc a beaucoup diminué pour être venu pratiquement plus qu'un gros éleveur qui vient, mais on n'a plus beaucoup lieu d'être. Et parallèlement, le concours aux bestiaux, avec l'aide de Patrick Marécal, l'actuel président, cette foire aux bestiaux qui a lieu tous les ans, au mois de février, mars, ça dépend des années, selon un calendrier qui est bien établi entre tous. Et cette foire aux bestiaux attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce que c'est un peu une prime qui est donnée pour les plus beaux bestiaux, pour les animaux les plus beaux de la région. Et l'après-midi, c'est réservé aux chevaux, aux moutons et tous les petits animaux, quoi. C'est un des concours de Seine-Maritime le plus prisé.
Le carrefour, c'était une grainerie des Fouaches. Et Monsieur Fouache, ils étaient grainetiers et ils avaient comme secrétaire un monsieur qui venait de Rouen, je ne sais pas comment qu'il l'avait connu, et qui malheureusement était infirme. Mais il avait un tristique pour se déplacer. Et c'est lui qui faisait le journal de Fauville. Il paraissait toutes les semaines, il relatait tout ce qu'il y avait à Fauville.
Pendant la guerre de 14-18, le gouvernement belge était réfugié à Sainte-Adresse, au-dessus du Havre. Il y avait donc dans la région pas mal de réfugiés belges.
La première théâtre de là, c'était un monsieur de Clercq, c'était un Belge. Et il taillait le lin, voyez, et il a fait construire pour ses employés des petites maisons. La rue du Bois, il y a quelques maisons construites, on appelait ça les maisons à Duclerc. La distillerie, c'était des betteraves, mais pas assez, mais des betteraves à alcool. C'était un monsieur Couture Côté cultivateur, ça commençait au mois d'octobre, puis ça finissait au mois de décembre ou janvier. Et c'était réputé comme...
Fauville a toujours été un pays de sportifs. Il y a actuellement 4 stades de football.
Il y avait au 15 août le grand match de football. Il fallait monter des tribunes en bois. Et il y avait un grand match tous les...
Dans les années 70, il y avait quand même très peu de loisirs, pour ne pas dire pas de loisirs dans nos communes. Moi, mes parents, par exemple, n'avaient pas de voiture. C'était pas une exception. Donc, on sortait pas, on partait pas en vacances. Pour les jeunes, il y avait quasiment pas d'occupation. Et le foot, le football, moi, pour les garçons, c'était le centre de la vie du village.
Le stade du René Lucas. Il y a eu beaucoup de réunions à cet état-là. Ça faisait 60 ans qu'il faisait du sport. Il a commencé, il avait 6 ans, sur le vélo à son père.
Voilà. Et nous, les filles, on allait voir nos copains d'école ou de... le dimanche après-midi. La seule distraction, c'était d'aller au foot. Alors, mon père était coiffeur pour hommes. Et à côté, comme souvent en campagne, il y avait un petit café qui était attenant. Donc, c'était café coiffeur. Et le café était un lieu, évidemment, convivial, où on avait une clientèle assez fidèle, de gens de la commune, quoi. Et comme mon père, par ailleurs, s'occupait aussi de l'ASF, l'Association Sportive Fourvillaise, il y avait les fameuses troisième mi-temps. Ça m'a laissé un souvenir. Les troisième mi-temps, le dimanche après-midi, après le match de foot, où il y avait toute une ambiance dans ce café.
C'est une personne qui veut y loger, qui venait de Saint-Pierre-de-Rita. Tous les vendredis, elle venait à pied avec son vélo à la main. Alors j'ai dit un jour à un jeune qui était à peu près dans mes âges, alors qu'il ne faut pas, il n'est pas plus loin que le bout de son nez, mais il dit, écoute, moi je connais une personne qui fait du vélo à pied. Il m'a dit, j'ai dit, si, elle fait du vélo à pied. J'ai dit, que c'est une personne qui prend son vélo de Saint-Pierre-de-Rita. On peut casser, regarder à droite et à gauche, et c'est fécond, vous traversez, et bien amener au marché avec son vélo. Le vélo qui servait à porter le matériel. Alors c'est pour ça que j'ai dit au jeune homme, il a dit, écoute, la dame a fait du vélo à pied.
Alors les filles, on avait tout de même une équipe de basket qui jouait le dimanche matin, donc les garçons jouaient le dimanche après-midi. Qui avait moins d'ampleur quand même. Ce qui a été pour nous extraordinaire, je crois que je peux dire le mot, c'était le foyer des jeunes. C'était un programme qui avait été lancé par le gouvernement de l'époque, pour sans doute la jeunesse et les sports. Donc c'était des sortes de maisons des jeunes qui étaient financées par l'État. Et ces maisons arrivaient en kit. Ce sont nos parents qui les ont construits. Ça s'appelait les 1000 clubs. À l'époque, il y a eu 1000 clubs comme ça de construits dans la France rurale, dans les petits villages. On s'y retrouvait tout le temps, le soir, le week-end. Le grand président du conseil d'immigration, c'était Albert Bovino, qui est un très grand président du foyer des jeunes. Et dans ce foyer, il y avait une section théâtre, il y avait une section cinéma, il y avait une bibliothèque dont je me suis occupée déjà. Il y avait une table de ping-pong, il y avait etc. Et on se retrouvait tous là. Et tous les gens de ma génération, là, qui ont la soixantaine actuellement, on a tous été, à l'âge adulte, présidents d'associations. On s'est tous investis dans les associations, certains un peu dans la politique ou dans le syndicalisme. Mais je veux dire, on nous a appris là l'engagement associatif. Et ça nous a tous marqués. Pour moi, j'ai eu le foyer de mes parents, mais j'ai eu le deuxième foyer, c'était le foyer des jeunes.
Le premier hôtel de Fauville, l'hôtel David, ça s'appelait l'hôtel du chemin de fer. Parce qu'il paraît qu'autrefois, il a failli que le chemin de fer passe à Fauville.
Quand la ligne Paris de Rouen a été prolongée jusqu'au Havre, Fauville était sur la... était sur la ligne, normalement, mais le conseil municipal de l'époque s'y est opposé. Beaucoup de conseils municipaux de l'époque avaient peur, faut pas oublier ça aussi, hein. Les trains, ça faisait peur, on n'en voyait pas forcément l'utilité, etc. Donc le conseil a rejeté le tracé de la ligne. C'est comme ça que la ligne de chemin de fer, au lieu de passer à Fauville, est passée à Foucart-Alvimare, où elle est toujours. Il y a encore une gare, enfin, un arrêt à Foucart-Alvimare.
On prenait la calèche pour rejoindre la gare de Foucart, pour aller prendre le train. C'était très, très joyeux dans cette calèche. On était environ une quinzaine.
Je pense que quelqu'un a dû s'imaginer que le chemin de fer allait passer. Et donc, il y a un hôtel qui s'est institué hôtel du chemin de fer. Et donc, la plaisanterie dans Fourville était de dire qu'on était certainement un des seuls, voire le seul village de France, à avoir un hôtel du chemin de fer dans une ville où il n'y avait pas de gare.
Nos prédécesseurs avaient refusé que le train passe à Fourville, donc la gare était à Foucart. Sinon, on serait devenu un bourg important.
Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta au cours d'un voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avait fait 30 kilomètres à l'hostellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça donnait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait, oh ça y est, c'est de là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager.
Bulle et reportage, principe actif.
Bulle et reportage.
Notre-Dame de l'Assomption de Fauville a été bâtie en deux étapes, de 1913 à 1916, puis ensuite de 1922 jusqu'en 1938. Déjà, on avait en 1913 à peu près 1300 habitants, 1300 à 1400 habitants à Fauville. L'église était manifestement trop petite. Pour cela, il fallait un terrain, de l'argent, puisqu'on était après 1905 et par conséquent la séparation de l'Église et de l'État, il n'y avait plus de possibilité de financement par l'État. Troisièmement, il fallait quelqu'un capable de mobiliser des énergies. Alors, en 1913, ces trois conditions se trouvent miraculeusement entre les mains du curé, l'abbé Dubois, un sacré bonhomme, et il a été aidé par une demoiselle de Fauville, Suzanne Olivier, qui était assez riche et qui a fait don du terrain sur lequel a été bâtie l'église. Ensuite, elle a donné 100 000 francs or, ce qui en 1913 était une somme assez considérable. L'abbé Dubois a fait appel à un jeune architecte de talent, Pierre Chirol. La guerre éclate l'année d'après et en 1915, l'église était à peine couverte et malheureusement, les travaux s'arrêtent parce que les ouvriers de l'entreprise Lanfry sont mobilisés. Alors, le premier projet de clocher avait été fait dès 1913, mais il n'avait pas été retenu par l'abbé Dubois, je ne sais pas pourquoi, qui avait préféré ce deuxième projet, beaucoup plus traditionnel, mais avec une flèche assez élancée et beaucoup plus élégante que ce que nous avons actuellement comme clocher. En 1927, après la guerre, vous voyez, un certain temps après la guerre, il y a eu un troisième projet de clocher avec une tour plus haute, une flèche aplatie et quatre clochetons. C'est donc finalement l'abbé Dubois retient ce projet-là, mais il meurt en 1930 avant les premiers travaux d'édification.
C'est-à-dire que tous les jours, il surveillait les travaux avec les ouvriers. Donc tous les jours, il montait jusqu'au haut du clocher, mais jusqu'à son sommet, c'est-à-dire à 30 mètres de haut tous les jours. Et moi, j'arrivais à dire, au jour que je ne trouverai pas mon mari, il sera dans le haut du clocher.
L'ancienne église a été démolie, il n'en reste rien. Comme dit le maire actuel, c'est dommage parce que c'était le seul témoignage du patrimoine historique de Fauville qui reste. L'église elle-même a été rasée. Mm-hmm. On a fait une perception à la place.
Un jour, je me promenais, il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler à l'ancienne église, qui était tombée déjà. Mais ils étaient au cimetière, parce que le cimetière était autour de l'ancienne église. Ils m'appelaient. Alors, je m'approche et il montre un crâne.
Et quand on avait fait la perception, on l'a monté dessus. Mais dessous, qu'est-ce qu'il y avait? C'était des défunts. Alors, il m'a dit, il faut que tu prennes une pioche et puis on va essayer de recorder pour mettre un tuyau parce que ça coule quand il marchait dessus dans la maison, dans la pièce de l'appartement. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait de l'eau. Mais, pour ainsi dire, il était sur les défunts. Le premier coup de pioche que je donne, sur la tête d'une personne. J'ai retiré ma casquette aussi sec et j'ai fait le signe de croix. Oui. Donc j'ai fait ça, j'ai refait un trou plus loin, j'ai remis la tête et on a posé le tuyau. Et peut-être un mois après, ils ont dit il faut qu'on sortir de là. Donc ils ont fait la perception derrière la poste.
Alors en 1916, l'archevêque de Rouen vient bénir l'église. Curiosité, l'archevêque s'appelait Louis Dubois et le curé s'appelait Louis Dubois. Il n'avait aucun lien de parenté. Elle a coûté cher, cette église, finalement, aux paroissiens, puisqu'elle a été entièrement financée par les paroissiens, par Suzanne Olivier, par des dons. Il n'y a eu aucune participation publique, ni de l'État, ni de la ville.
Bon, nous sommes en train de monter tous les dossiers pour pouvoir justement rénover notre église qui a un style un peu particulier.
Romano-byzantine, c'était la mode en à la fin du 19e et le début du 18e. Montmartre, Marseille, Notre-Dame de la Garde, enfin il y a plein d'exemples d'églises romano-byzantines, c'est le renouveau, si vous voulez, de l'art romano-byzantin. Donc Chirol lui bâtit une église romano-byzantine, vous voyez, que les Cauchois ont trouvé bien bizarre. Ces arcs romans, avec alors une coloration qui est celle de Cordoue, la mosquée de Cordoue. L'abbé Ternon, dont nous avons vu la tombe à l'instant, a écrit un jour que c'est vrai que ce que l'on a dépensé pour construire cette église dépassait de beaucoup ce que l'archevêque de Paris donnait pour construire une église dans la banlieue parisienne pour 13 000 âmes, alors qu'il n'y en avait que 1300 ici.
Alors, on n'avait pas au catéchisme, voilà. Forcément parce que nos parents étaient croyants. Enfin, moi, c'était le cas des miens, qui n'étaient pas du tout pratiquants ni croyants d'ailleurs. Mais c'était une institution, à l'époque, vous étiez baptisé, on allait jusqu'à la communion. Le catéchisme, c'était le jeudi matin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école le jeudi. On allait le jeudi matin, ça commençait par une messe, après on allait au catéchisme, donc ça nous prenait quasiment toute la matinée. Et puis le dimanche, on retournait à la messe une bonne partie de la matinée. Entre église et catéchisme, ça j'en parle souvent, ça. C'est les processions, totalement disparues maintenant aussi. Il y avait une procession qui faisait toutes les rues de Fauville avec le clergé en tête. Nous, les enfants du catéchisme, on était derrière.
On s'arrêtait à chaque maison qui avait fait un reposoir. Les petits-enfants qui faisaient la procession avaient une petite bannette, toute petite, remplie de pétales de fleurs. Et ils jetaient à chaque arrêt. Voilà,
donc les maisons étaient habillées, les maisons qui servaient de reposoir étaient habillées de draps blancs avec beaucoup de verdure dessus. Il y avait un autel sur cet emplacement et à ce moment-là, on présentait le fameux ostensoir. Le prêtre s'arrêtait, donnait la communion sur les reposoirs. Voilà. Et il y avait aussi la procession des rameaux. Enfin, là, on tournait autour de l'église avec les branches de buis. On a eu une enfance aussi rythmée par aussi la vie parallèle qu'on avait avec l'église et le catéchisme et tout ça.
Et c'est vrai que plusieurs fois dans l'année, notre église est pleine, 500-600 personnes, assez régulièrement.
C'est une grande église et ça a été reproché à l'abbé Dubois parce qu'on lui a dit que pour Fauville, c'était manifestement trop grand. Il n'y a plus qu'une seule paroisse, qui est Saint-Louis-Cœur-de-Caux, qui regroupe 17 villages. Donc c'est l'église des 17 villages. Le choix de l'abbé Dubois se trouve justifié. Comme je dis toujours, si Dubois avait été sage, j'aurais fait une église plus petite, mais si Louis XIV avait été sage, il n'aurait pas fait Versailles.
Le musée voisin, c'était donc, en fait, c'était un musée privé. J'ai toujours entendu dire que c'était des collections extrêmement riches, donc de meubles et vaisselle cauchoise essentiellement. Hein. Donc ça se visitait, mais pour beaucoup, enfin, en tout cas, le regret qu'ont eu les gens de Fauville à l'époque, c'est que, au décès du propriétaire, comme c'était un musée entièrement privé, la succession a fait que tous ces objets ont dû certainement être dispersés entre les héritiers et que le musée il a purement et simplement fermé ses portes.
Et donc ce musée voisin a disparu aussi depuis la guerre, mais c'était quelque chose d'important aussi. Un monsieur qui était célibataire et sa sœur, donc n'ayant pas de descendance, a été vendu ensuite. La propriété a été vendue, puis toute la collection a été disloquée. Quoi.
Et puis après, il y a eu au château, il s'est construit un collège.
Donc le collège de Fauville où je suis allée, puisque le collège était là. Là, c'était le premier collège de Fauville, et donc à l'époque, le collège François Villon n'était pas du tout construit. Et quand moi, je suis rentrée au collège, c'était l'ouverture des sixièmes. À l'époque, c'était les premiers collèges, ça s'appelait des CEG, collèges d'enseignement général. Donc c'était les premiers CEG qui ouvraient. Et donc moi et puis d'autres, évidemment, on a été là de la 6e à la 3e. Donc après.
C'est là où était le lycée horticole.
Donc nous, ma génération, le lycée horticole ne nous évoque rien, mais par contre, on a tous traîné nos culottes sur les bancs du collège.
Il y avait deux écoles, l'école libre et l'école communale.
À ce moment-là, l'école libre, c'était juste en face de l'église. Mais c'était une école assez bien réputée et ils ont eu, pensez-vous, à ce moment-là, ils allaient jusqu'au brevet.
C'était une école religieuse. Ils gardaient les garçons jusqu'à 6 ans. Après, ils allaient à l'école communale. Il y avait 3 classes et il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Comme...
Il y avait toujours la rivalité, comme partout, école libre, école publique. Voilà, c'était, on va dire, sociologiquement, c'était pas les mêmes enfants qui fréquentaient l'une ou l'autre.
On avait une maîtresse, Mlle Yvonne.
Ah oui, elle était beaucoup plus. Avec Mlle Louise.
Oui, mais Mlle Yvonne, quand on regardait pas, elle avait un grand bâton, puis elle nous fichait un coup de bâton.
Ils étaient des bonnes sœurs déshabillées. Donc, c'est quand les Allemands sont arrivés qu'ils leur ont fait reprendre le
l'habit. Oui, c'est ça. Parce que sans ça, ils n'avaient pas le droit.
Ils n'avaient pas le droit. Mais quand on est arrivé à l'école puis qu'on a vu madame habillée en bonne sœur, dis donc, ça faisait drôle.
Oui.
Parce qu'en fait, Michel, il ne voulait pas rentrer. Et là, il avait resté assis sous le marronnier toute la matinée. Il ne voulait pas rentrer à l'école. Il l'avait laissé, ma foi. Tous les mois, on avait les carnets. Et puis, c'était l'abbé Termont qui venait.
Quand vous aviez bien travaillé, vous aviez la croix.
Il y avait madame Rall. À chaque fois, elle me mettait un beau petit ruban à ma croix.
Les prix à l'école communale, donc chaque fin d'année, au mois de juin, il y avait la distribution des prix. Alors, donc c'était la fête. Alors maintenant, il y a encore des fêtes dans les écoles. Donc, là où pas grand-chose n'a changé, c'est que nos instituteurs nous faisaient monter des petites scénettes, des danses, des voilà. Donc il y avait tout un spectacle. Mais ce qui était surtout impressionnant, mais à l'époque, vous aviez le prix d'honneur, le prix d'excellence. Il y avait des accessites, il y avait toute une hiérarchie dans les prix selon votre classement. Voilà. Dans telle et telle matière. Donc on recevait des livres, alors plus ou moins. Alors quand vous aviez le prix d'honneur, vous repartiez avec une pile de livres énorme. Et les prix d'honneur étaient plutôt distribués par le maire. Mais chaque conseiller, je me rappelle, ils étaient assis en arc de cercle sur la scène, et puis chaque conseiller à tour de rôle donnait les prix aux petits. La solennité de l'époque, c'était incroyable, quoi.
À la rotonde était la salle des personnes âgées, hein, il était là-dedans. Et comme il savait M. Lostrolin, il faisait du théâtre. Puis moi j'allais tirer les billets, tout ça, quand les gens pensaient, je tirais le billet, puis j'avais un appareil sur moi, et puis hop, mettais les billets là-dedans, et hop. Et puis il pensait, ouais, puis après j'y allais.
Quand on a fait du théâtre au foyer des jeunes, on donnait nos pièces là. Lieu du cinéma aussi. Le cinéma, ça a été quelque chose quand c'est arrivé dans nos campagnes. Là, quand il y avait séance de cinéma, c'était la fête.
Oh oui, il y avait des bons détails, il y avait des bons films.
Ça a été le lieu de toutes les fêtes, y compris des fêtes privées, puisque, par exemple, moi, quand je me suis mariée, le vin d'honneur a été donné à la rotonde. Je pense que tous mes amis, tout ça, tous ceux qui se sont mariés à Fourville, on a tous eu nos vins d'honneur à la rotonde. Alors, nous sommes jumelés avec deux villes à Fourville. Le premier jumelage le plus ancien qui, maintenant, on doit aller vers les 40 ans maintenant, c'est un jumelage qui s'est fait avec une ville de Rhénanie-Palatinat en Allemagne. Donc, en Allemagne, je vous dis de l'Ouest, puisqu'à l'époque, le mur n'était pas tombé. Donc, voilà, maintenant. Donc, on est jumelé en fait avec une communauté de communes qui s'appelle Grafschaft. Et Grafschaft est situé géographiquement entre Bonn et Cologne. On a des liens très forts avec nos amis hein, d'Outre-Rhin, comme on dit. Et alors, il s'est constitué ce jumelage dans la mouvance des jumelages de l'époque. Alors, je ne vais pas vous dire après-guerre quand même, non. Mais c'était dans le moment de la réhabilitation des amitiés franco-allemandes, le traité de Versailles, de Gaulle, Adenauer et tout ça. Donc les jumelages sont partis de là, où on a fait énormément de fêtes à la rotonde. Entre parenthèses, nos amis allemands connaissent parfaitement bien la rotonde.
Le jour il se lève sur ma rivière, je suis botté comme un jus que de co. Y'a pas un bris de vampire de réel, plus qu'on rigole, plus qu'on est de fou. Avec les gars de la dalle en pente, on a de la goule comme des pitois. Et quand on mac et pis qu'on cante, comme des grandes vagues qui se perlent la voix. On monte au ciel des cotons, et on veille plus jamais le malus. On n'est pas des cuets pour autant, on suive pas de l'eau, puis on pisse dru. Alors ce matin, j'ai des gornouilles qui me carabaillent au coupe de ma tête. Je me déassis comme un crapaud juqué sur une boîte d'allumettes. Pour m'arriver, je repense, ça y est, à mes copains de la bande à Arin, aux brailleux de goules, aux affronteux, aux diseux qu'on pas frais à yeux. Parce qu'ensemble, on gangue la misère, on est jeté comme on est chemé, et on cause de maquer le soleil, ensemble on tec des mouques à miel. Alors chez Faux, je suis qui causait, le grand cause qui nous disait que chassait avec des chaos, des mouques, on ne fait comme à nuit et au plus fort la pouque. Parce que chassait, il n'a de la couleur dans le ciot, et puis de la belle. Pas comme l'autre, qui corque un pieu avec la pio. Le jour il se lève sur ma rivière, sur ma caboche qui pense aux autres, qui disent toujours, avec le cœur qu'on leur connaît, que qui est bergier et qui dit poète, qui dit fable. Ou chansolie à son hôte.
Alors la fontaine Malat, pour nous, ça évoque les rosières. Léonard Malat, à qui on doit cette fontaine, avait, je pense que c'était un homme qui devait disposer de certains biens, et quand il est décédé, il avait fait un testament dans lequel il donnait de l'argent à la commune de Fauville pour élire chaque année une rosière. On récompensait une jeune fille pauvre et vertueuse. On la voyait le soir de la veille de la Saint-Jean. Donc il y avait une retraite au Flambeau qui passait dans tout Fauville. Moi je m'en rappelle encore, toute gamine, on était bouche bée. Il y avait de la musique, alors qu'on ne pouvait même pas appeler ça musique municipale, c'était une clique à l'époque. Donc c'était des pompiers qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y en avait quelques-uns qui jouaient plus ou moins bien du clairon. Et la rosière suivait la musique avec une couronne de verdure. Puis il y avait le feu de Saint-Jean sur le stade et elle lançait sa couronne dans le feu de Saint-Jean. Donc les rosières, c'était une tradition française plutôt du début du XXe siècle, hein, qui, je pense que ça a dû perdurer un petit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça a dû quand même baisser.
La Saint-Jean, puisque c'était la fête du pays depuis des années. Il y a toujours eu des chars, sauf pendant la guerre, pendant 4 ans de guerre, il n'y a rien fait.
La première fête en 46-47 des prisonniers, c'était un dracard. Il était très joli. D'où l'idée de refaire le corso fleuri. Comme on n'avait pas beaucoup de moyens, on a fait l'armée de Napoléon. Il y avait un cheval, Napoléon dessus, les enfants, on leur avait mis leur blouse grise d'école. Et mon mari et son frère étaient menuisiers et ébénistes. Et ils avaient fait, avec des bouts de bois, des fusils. Il y avait un canon tiré par 2 soldats.
On était toujours 4, 2 devant et 2 derrière. Et puis on suivait le char, notre char. Partout dans tout le pays de Fauville, hein, pour montrer à tout le monde. Alors tout le monde était toujours sur les côtés pour regarder le char passer.
Mon mari avait fait un jardin japonais, fait en fleurs naturelles. Et puis après, il a été décidé, avec le comité du Corso Fleuri, de faire chacun son char dans son quartier. Et les hommes faisaient les ossatures. Les femmes, chacun faisait chez soi les fleurs et on allait les coller le soir jusqu'à 11h30, minuit. Il faisait bon et c'était la joie.
Le premier que j'ai fait, c'était au château. J'ai fait le charme de la reine. Puis la dame qui était avec moi, Toine Meurice, c'est elle qui m'a appris, au début. Je n'ai rien déchiré.
Ma mère a fait des fleurs pour Madame Follin, et puis je la turque. Ça, pour faire des fleurs, on en faisait. Hein. Oui, ils les collent maintenant, mais nous, on les collait pas, mais il y avait un système D. On les ajustait un sur l'autre. On voyait bien s'il fallait que ça soit du rouge, qu'il fallait qu'il soit, ou du bleu, du vert, et ça faisait bien. Et quand il y avait eu le char de la reine, c'était beau aussi, hein.
Il a fait un escargot Après, une gondole, un petit bateau. Après, on les a fait de plus en plus grands.
La Saint-Jean, pour nous, c'était la vie de quartier. Pendant le 1er mai, tous les quartiers se mettaient au char. Enfin, il y avait toujours un bâtiment agricole qui accueillait le char, où tout le monde se rencontrait pour coller les fleurs. Et il y avait une espèce de compétition, on était fiers de nos chars. Et nous, les enfants, montés sur le char, moi je suis montée, je ne sais pas combien d'années, montés, costumés selon le thème du char. Mais c'était le summum de l'année. Hein. Encore adulte, il n'y a pas bien longtemps. Quand j'allais à Saint-Jean, j'avais encore une émotion qui m'étreignait quand je voyais les chars arriver, parce que c'était tellement fort.
Il y avait le concours hippique, ça se passait sur la place, et il y avait des cultivateurs qui, à ce moment-là, avaient fait sûrement leur jument dans la cavalerie, qui montaient à cheval. À la messe, les corps de chars jouaient. Et puis alors, il y a eu après les courses. À Fauville, des courses de chevaux.
Le Tour de France a passé, il ne s'est pas arrêté, mais on l'a bien vu. On a vu Yvette Horner accorder un Nice.
Avant la guerre, il y avait des théâtres ambulants qui venaient deux ou trois fois par an. C'était sur la place, c'était un genre de cirque, parce que mon père avait toujours des chiens. Et puis il fallait un chien. Le chien, mon père, il s'appelait Caprice, c'était un épaisseur breton, il a été faire du théâtre.
Alors, curieusement, beaucoup d'anciens appellent encore l'hospice, alors qu'évidemment, maintenant, c'est un EHPAD.
Il s'appelle Bout Manouri, mais moi, je sais pas trop. Mais il y a des gens dans le canton qui la connaissent très bien, qui sont un peu en parenté. C'est la famille Claude de Picard, de Cliponville. Ça doit être une parente à eux, mais éloignée.
Éloignée, oui.
Qui avait fait don de cette propriété pour que les gens, les indigents soient soignés. Et pendant la guerre de 14, je sais qu'il y a eu
C'est pour ça qu'ils n'ont pas foutu bord.
C'est ça. Et pendant la guerre de 14, je sais qu'il y a eu des prisonniers qui sont venus à Fauville.
Oui, mais j'ai souvenir aussi de l'hospice à l'ancienne. Qui avait des vaches qui étaient en autarcie, hein, comme beaucoup d'hospices à cette époque-là, et où il y avait des gens qui passaient beaucoup d'années, et on était habitués à voir se promener, notamment certains messieurs qui d'ailleurs venaient au café chez mes parents, et que quelquefois les sœurs, parce qu'il y avait des religieuses à l'époque, revenaient chercher dans les cafés du coin.
Ouais, il y avait le dernier sou. Pourquoi qu'on l'appelle le dernier jour, vous savez pourquoi? Que les gens, quand ils buvaient un coup dans les cafés, eh bien, ils allaient jouer le dernier sou au café.
Moi, je connais quelqu'un, il vendait, s'il avait un veau, tout ça à vendre, avec l'argent après, il revenait chez lui sans argent, parce qu'il avait payé un coup à tout le monde, ses copains, ben, comme il avait de l'argent. Tiens, tu nous payes un coup, et hop, et ben, puis il revenait chez lui avec plus d'argent.
Beaucoup de gens qui venaient en voiture, à cheval, on disait que c'était le cheval qui les reconduisait chez eux.
Bulle et reportage, principe actif.